Emmanuel Bove, Armand. Chapitre 1. Il était midi. À cause du froid, le soleil semblait plus petit. Les vitres et les glaces ne renvoyaient pas ses rayons. Mon attention, comme celle des enfants, se portait sur tout ce qui bougeait. Parfois, je caressais la tête d'un cheval sur le front pour qu'il ne me mordît pas. Je suivais une rue si étroite que les fouets des voitures me touchaient en passant, lorsqu'une main se posa sur mon épaule. Je la regardais, puis me tournai. C'était Lucien. Au lieu de m'appeler, il avait voulu faire la plaisanterie de me toucher dans la rue, comme l'eût osé un inconnu. Je ne l'avais pas vu depuis un an. Il portait le même pardessus, une autre cravate, le même chapeau. Il n'avait pas grossi ni maigri. Pourtant, il était différent. Il vivait dans mon souvenir sans rides, sans coupures, sans cette fossette du menton trop profonde pour qu'il pût la raser. Je m'arrêtai. Notre haleine, dans le froid, s'échappait à contre-temps. Je remarquai autour de ses yeux une sorte d'affaissement qui donnait à son visage une expression triste et maladive. À ces endroits, la peau plissée battait à la cadence du cœur. À cause de sa lèvre inférieure, plus épaisse que celle du haut, il paraissait faire la moue. L'os de son nez était saillant. Les oreilles, que je m'empresse toujours de regarder de peur de les oublier, brunes, lisses, sans les replis habituels du pavillon, et si petites qu'elles semblaient avoir cessé de grandir avant le corps. Lucien n'avait jamais mis de fleurs à la boutonnière intacte de son pardessus. Les revers en étaient déformés. Ses mains, dans les poches déchirées, ne s'appuyaient sur aucun fond. Nous étions embarrassés. Lucien, de m'avoir accosté familièrement, moi, d'en paraître importuné. Nous demeurions immobiles. J'attendais qu'il parlât. De le voir si pauvrement vêtu, les années malheureuses que j'avais vécues repassèrent devant mes yeux. Je les avais oubliées petit à petit. Maintenant, elles étaient aussi nettes que si aucun intervalle ne m'en eût séparé. La fumée des cheminées, comme de petits nuages, masquait parfois le soleil. Au lieu de pendre, les bordures de toile relevées par le vent reposaient sur les stores. À la fin, nous fîmes route ensemble. Il se plaça à ma gauche, comme si j'étais une femme, à cause d'un vague respect de ce qui est à droite. À chaque carrefour, il craignait que je ne changeasse de direction sans le prévenir. Je lui disais alors « tout droit ». Il était encore midi. Nous traversions les rues, chacun pour soi, sans que l'un de nous se souciât de l'accident qui eût pu arriver à l'autre. Un café faisait le coin d'un boulevard et d'une place moins grande que les photographies ne la représentent. J'invitais Lucien à prendre quelque chose. Nous nous assîmes à la terrasse que trois braseros argentés réchauffaient. Nos pieds écrasèrent des pistaches. Les siphons étaient grillagés pour qu'ils ne fissent pas explosion. Lucien ôta son chapeau, le posa sur un guéridon, puis, parce qu'il cherchait constamment à deviner les usages, crut soudain qu'un chapeau ne se mettait pas sur une table et le reprit aussitôt. Une cigarette fumant des deux bouts entre les doigts, la nuque à l'abri contre mon col relevé, je regardais les passants. C'était une distraction de mon père. Depuis sa mort, libéré de la crainte qu'il ne m'eût surpris à l'imiter, je m'applique sans grand plaisir à observer le va-et-vient des gens et à trouver un agrément dans le contraste de leur physionomie. Lucien avait commandé un café sur lequel flottait une écume semblable à celle de la saccharine. Il était gêné. Ses doigts, à peine plus longs les uns que les autres, avaient des tics qui faisaient saillir jusqu'au poignet l'os qui les commandait. il se tourna vers moi. Il commençait de manger un croissant par la languette du milieu. Nos regards se rencontrèrent. Je me vis, une seconde, jusqu'aux épaules dans ses prunelles. Je baissai les paupières, sans pour cela fermer les yeux. Ils se portèrent tous deux sur son visage entier. Je sentis qu'il s'apprêtait à parler. L'arc de ses sourcils s'accentua. Il ouvrit la bouche, si lentement que ses lèvres retrouvèrent leur rougeur avant de se séparer. J'aperçus sa langue, courte comme ses doigts, se lever pour former un son. J'écoutais déjà. Il fit un geste. « Comme tu as changé, Armand! Maintenant, tu dois être riche. Tu ne pourrais plus venir dans notre restaurant. Te souviens-tu de l'année dernière ?» L'eau de sel se faisait encore des bulles dans mon apéritif. Je tins ma cigarette à l'endroit où elle était sèche pour la lancer. J'en pris une nouvelle. Il y avait tant de soleil que je ne sus si mon allumette flambait. Je me souvenais, en effet, de ma vie passée. À présent, c'était fini. Mais je devinais que Lucien, lui, prenait encore ses repas dans les mêmes restaurants, habitait la même chambre. Pour qu'il ne me reprochât pas d'avoir changé, j'essayais de retrouver les manières timides et grossières de jadis. J'eus honte de mon pardessus chaud, de ma cravate surtout, qui était de soie. J'affectais de ne prendre aucun soin de mes vêtements et, quand une goutte tomba sur mon pardessus, je laissais la tâche se faire. Pourtant, j'avais beau prononcer les mêmes paroles, exécuter les mêmes gestes, je ne redevenais pas celui que j'avais été. L'aisance dans laquelle je vivais, depuis 12 mois, avait chassé brutalement toutes mes habitudes. Je parlais davantage. Il me semblait que je n'avais plus raison contre les hommes. Ceux qui se plaignaient m'apparaissaient aigris ou privés de clairvoyance à cause de leur état de pauvreté. Lucien me regarda sans méchanceté, mais avec une insistance qui, dans un endroit clos, m'eût fait rougir. Je ressentis alors cette gêne que me causaient, quand j'étais enfant, des yeux trop près de moi. Ce jour-là, après 10 ans, je redevenais pour un instant timide. Dans un mouvement instinctif, je détournais la tête pour qu'il ne vît pas mes oreilles, pour que les parties de mon corps qui m'échappaient, même dans une glace, ne lui apparussent pas avec netteté. Je demeurais ainsi quelques secondes. Je crus même que j'allais rougir. Le sang me monta à la tête, mais trop faiblement pour teinter mes joues. Maintenant que j'ai 30 ans, je rougis souvent ainsi, et je suis seul à le savoir. Puis, reportant mon regard sur Lucien, j'eus conscience qu'il était de chair comme moi-même quand, dans une glace, je regarde sous ma langue. Il vivait. Ses narines reconnaissaient les odeurs. Un jour, que plusieurs de celles-ci étaient mêlées, il les avait séparées puis énumérées. Il ne confondait pas les bruits qu'il entendait. Il voyait l'heure d'aussi loin que moi. Il respirait à une cadence à peine plus lente que la mienne. La peau de son visage continuait sous son col. Il avait des seins, noirs parce qu'il était brun, du duvet, un nombril plein ou creux, selon l'habileté de la sage-femme. Je repris confiance. C'était un homme semblable à moi qui m'observait. Les tares qu'il découvrait sur mon visage, je les eusse découvertes sur le sien. D'une table voisine, une soucoupe tomba sans se casser. Les stores claquaient au vent. Leurs bras de cuivre montaient et descendaient dans les glissières sèches. Des bouffées d'acide carbonique venues des braseros nous enveloppaient. Lucien, chaque fois, toussait sèchement ainsi qu'au commencement d'un rhume. Les jambes séparées par le pied unique du guéridon, nous faisions attention de ne pas toucher de nos genoux le dessous du marbre. De temps en temps, je surprenais dans sa bouche une réflexion bête. Sans cesse, je l'approuvais pour qu'il ne pensât pas que j'étais devenu fier. Mais je sentis que c'était justement cela qui me trahissait. À un moment, je voulus l'interpeller familièrement, lui donner un nom drôle, comme par le passé. Je n'osais pas. Il ne l'eût point toléré. Je l'examinais à la dérobée. Il avait bu son café. Le verre à la bouche, il attendait que le sucre pas fondu glissât jusqu'à ses lèvres. Je me rappelais alors qu'il avait ri aux éclats, qu'il s'était emporté. À présent, près de moi, il ne se risquait même pas à parler. La main entre les jambes pour tirer la chaise, je m'approchai de lui. Il eut un geste de recul. « Tu as peur de moi ?»« Non, non, c'est un mouvement instinctif. » Il se tut. Comme s'il attendait que je fasse pour rire le simulacre de le frapper, il se raisonnait. Il avait fermé les mains pour que ses doigts, à la merci d'un bruit, ne pussent le trahir. Tant de frayeur enfantine chez un homme m'émut. « Lucien, viens donc demain déjeuner chez moi. Je parlerai de toi. Je tâcherai de te trouver une place. On arrangera tout cela. Nous serons mieux qu'ici. Tu verras mon amie. Elle est très gentille. Nous habitons 47 rue de Vaugirard. Le déjeuner, c'est à midi ?
Oui.
Viens un peu après, pour que tout soit prêt. » Un sourire rayonna autour de ses lèvres. Ses yeux bleus se posèrent sur moi plus longtemps que de coutume. Il balbutia quelques mots. Un peu de joie se dégageait de lui. Il était midi et demi. Les cloches sonnaient toujours. J'appelai le garçon. Il ne vint pas. Je dus chercher un canif dans ma poche pour faire assez de bruit. Lucien s'était levé. Il attendait que je fusse debout pour mettre son chapeau. Il y avait des miettes de croissant dans les revers de son pantalon. Cependant que je comptais ma monnaie, il se chauffa à l'un des braseros, le par-dessus ouvert, pour que la chaleur atteignît plus vite son corps. Nous fîmes quelques pas sur le boulevard, avec indécision, sans paraître nous connaître, et nous nous arrêtâmes à côté d'un arbre plus jeune que les autres, qui, près de nous, eut un peu l'air d'un tiers. « Alors, Lucien, je te quitte. Tu sais que je compte sur toi pour demain. Viens, sûrement. » Il ne répondit pas. Il baissait les yeux, ce qui donnait à son visage, parce que tous les cils se ressemblent, un air de fillette. Il avait espéré beaucoup plus de notre rencontre. Il ne savait sans doute où aller. Je pensais à l'emmener tout de suite chez moi, mais à cause de Jeanne, à qui cela aurait déplu, je n'osais le faire. Je lui tendis la main. Il la prit, la tint comme un vieillard celle d'un jeune bienfaiteur, sans que son expression changeât, sans que ses pieds se plaçassent l'un devant l'autre. « Tu t'en vas déjà, Armand ?» Ses yeux me suppliaient de rester. « Oui, Jeanne m'attend. » Il lâcha ma main. Je lus sur son visage qu'il eût désiré m'accompagner, me voir entrer chez moi, attendre que seule une porte nous séparât. Quelques secondes s'écoulèrent. Je demeurai indécis. Je comptais qu'il partirait le premier. Patiemment, il attendait que je prisse une décision. De nouveau, je lui tendis la main, franchement, pour qu'il me tendît la sienne, même de mauvais gré. Il la serra. Ainsi jointe, elles m'apparurent un instant semblables à quelque entête symbolique. Puis je le quittais avec netteté, sans me retourner, sans lui parler de loin. Je pris une direction quelconque. Dans les rues droites, une heure silencieuse, le vent soufflait aussi fort qu'au-dessus des maisons. Quoique j'avançasse, l'ombre des réverbères conservait la même inclinaison. À l'horizon, les nuages de la veille se pressaient les uns contre les autres, comme si, sous d'autres cieux, d'autres nuages les empêchaient de passer.